Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un épisode héroïque de la Seconde Guerre mondiale, le sauvetage des enfants de Vénissieux. Le 26 août 1942, en pleine occupation allemande, une grande rafle est menée par la police française dans la région de Lyon. En tout, 1016 juifs sont capturés, dont 108 enfants. Conduits dans l'ancien arsenal de Vénissieux, ils sont censés rejoindre les camps d'extermination de Pologne 3 jours plus tard. Mais l'un des fonctionnaires impliqués dans l'organisation de la rafle est aussi un agent de la résistance, infiltré dans la technostructure locale. Alors, il alerte une association d'opposants au régime de Vichy, l'Amitié chrétienne. Et en quelques jours, ses membres s'organisent pour empêcher la déportation d'un maximum de personnes. Leur stratégie est simple, sur le papier en tout cas, noyauter l'administration du camp et miner tout le processus de l'intérieur. Qui sont ces héros? Comment ont-ils procédé? Cet acte de résistance, comme beaucoup d'autres, est captivant, fascinant, admirable. Notre invitée aujourd'hui, Valérie Porteret, historienne, elle a mis au jour cette histoire qu'elle a racontée dans un livre intitulé « Vous n'aurez pas nos enfants » paru aux éditions IXO en 2020. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mardi 26 août 1942, Alba-la-Romaine, Ardèche, il est 4h du matin. À l'étage d'une petite maison du bourg, Rachel Berkovitch, 11 ans, dort d'une oreille, à côté de Fanny, sa belle-mère. À l'âge où les enfants jouent à la poupée ou à la marelle, Rachel, elle, a déjà vécu l'horreur de l'exode. Née à Charleroi, elle a dû quitter la Belgique avec Fanny et son père Zelman, tous deux réfugiés juifs polonais, au moment où les troupes nazies ont envahi le pays 2 ans auparavant, en mai 1940. Loin des briques rouges et de la grisaille des plaines, les Berkovitch ont donc dû s'acclimater à la vie d'un village du sud de la France, avec ses ruelles typiques, ses collines brûlées par le soleil. Malgré ce décor de carte postale, ils ont appris à se méfier de tout. Juifs et étrangers, perdus dans un pays occupé, leur sort, ils le savent, peut basculer à tout moment. Et c'est précisément ce qui s'est passé 3 mois auparavant, quand le père de Rachel, Zelman, a été arrêté par la gendarmerie. L'homme a été conduit non loin de là, à Aubenas, dans un groupement de travailleurs étrangers. Depuis, Rachel et Fanny doivent se débrouiller seules, loin de leur famille, dans une France à l'agonie. En cet été 42, l'envahisseur allemand occupe en effet le pays depuis bientôt 2 ans. Le territoire est alors coupé en deux. Au nord, la zone contrôlée par les nazis. Au sud, là où se trouvent les Berkovitch, la zone dite libre, placée sous l'autorité du maréchal Pétain et du gouvernement collaborationniste de Vichy. Ainsi, depuis l'été 40, une politique férocement antisémite est appliquée. Dans les cinémas et à la radio, du matin au soir, on scande les refrains de la propagande pétainiste aux ordres de Berlin, comme par exemple dans ce film de 1941 intitulé « Les corrupteurs ».
Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française.
Comme tous les juifs étrangers de la zone sud, Rachel et Fanny sont soumises à des règles strictes. Ainsi, elles ont l'obligation de pointer à la mairie tous les 15 jours, et elles ne peuvent pas quitter la commune sans autorisation. Confinées dans ce village d'à peine 800 habitants, elles ne peuvent compter que sur la solidarité d'une poignée de locaux et les quelques informations ou rumeurs qui leur parviennent de l'extérieur. Et depuis quelques semaines, les nouvelles ne sont pas bonnes, surtout de l'autre côté de la ligne de démarcation. Un mois plus tôt, en effet, les 16 et 17 juillet, une énorme rafle est menée par la police au Vélodrome d'hiver de Paris, plus connu sous le nom de Veldiv. Plus de 13 000 juifs sont arrêtés avant d'être déportés. Un reportage diffusé par l'ORTF en 1972 raconte l'événement avec notamment le témoignage d'un rescapé, Lazar Pikovitch.
Le rush, 4 heures du matin. L'opération a été baptisée cyniquement « Vent printanier ». Au petit jour, Paris est investi par la police parisienne, la police de Vichy, qui s'est chargée des préparatifs et de l'exécution. 9000 hommes.
Je suis en effet parti le matin de bonne heure pour aller au centre Amelot où je travaillais. Et ce qui m'a surpris et pas tout à fait surpris en vérité, c'était le spectacle de ces pauvres gens que l'on voyait sortir des différentes maisons avec des valises, des ballots à la main et qu'on dirigeait vers des autobus qui les emmenaient. Nous ne savions pas encore où, mais nous avons appris par la suite que c'était notamment au Vélodrome d'hiver. Jusque-là, nous savions que des rafles avaient lieu, il y en avait eu d'importantes, avec des milliers d'arrestations, mais ça concernait surtout des hommes. Et cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené, nous l'avons su par la suite, au Vélodrome d'hiver, où la plupart d'entre eux avaient été parqués. Il y avait 4 000 enfants parmi eux.
Les Juifs de France ne le savent pas encore, mais cette grande rafle du Vel'd'Hiv est la première d'une longue série. Elle fait partie d'un plan plus vaste, destiné à capturer des dizaines de milliers de personnes. Début juillet, le maréchal Pétain et son premier ministre Pierre Laval ont promis aux nazis de déporter 22 000 Juifs étrangers de la zone nord, ainsi que 10 000 résidents dans la quarantaine de départements de la zone libre. Tous les préfets de région ont été prévenus par René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy. Parmi eux se trouve le préfet de la région lyonnaise, dont dépend l'Ardèche, un certain Alexandre Angeli. Froid et méthodique, le fonctionnaire veut aller vite. Son coup de filet est prévu pour ce mardi 26 août 1942. Il s'agit là de la première rafle en zone sud. Ce matin-là, dès 4 heures, des centaines de policiers et de gendarmes sont déployés dans les communes de la région. Les responsables de section ont reçu la consigne d'agir le plus discrètement possible pour surprendre les victimes au saut du lit. Un témoin de l'époque, Ronan Odo, explique dans un reportage de FR3 Lyon de 1992.
Il y avait sans doute pas loin de 10 000 réfugiés dans la région de Lyon, c'est-à-dire à Lyon et dans les départements limitrophes. Et alors là, je pense effectivement qu'il y avait au moins 4000 arrestations prévues parce que la préfecture a employé des grands moyens. C'était des cars qui étaient haut sur pattes, ces anciens cars de police, qui arrivaient tout doucement et qui cernaient le quartier. Et alors à ce moment-là, c'était surtout des gens en civil qui descendaient. Ils avaient des adresses, ils avaient des listes nominatives. Ils frappaient à la porte et on emmenait les gens dans l'état où ils étaient.
Du côté d'Alba la Romaine, seuls deux juives étrangères sont recensés, Rachel et Fanny Berkovitch. Comme le petit bourg n'a pas de poste de police, c'est un simple fonctionnaire qui est chargé de la basse besogne. C'est le garde champêtre du village. Alors, un peu avant 5 heures du matin, l'homme frappe à la porte. Rachel et Fanny se réveillent en sursaut. Elles comprennent que cette fois, c'est leur tour. Éclairée par une lampe à huile, Fanny entasse quelques vêtements dans une valise. À ses côtés, Rachel serre contre elle son violon qui ne la quitte pas. Ensuite, elles sont menées jusqu'à la place du village, où un car les attend. Elles s'installent, le moteur démarre, destination inconnue. À chaque nouvel arrêt, des malheureux prennent place sur les sièges disponibles. Rachel et Fanny retrouvent des têtes connues, des gens de leur quartier de Charleroi qu'elles n'avaient pas vus depuis des années. L'atmosphère est étouffante. Un silence de mort règne dans l'habitacle. Le véhicule remonte alors vers le nord, direction Lyon, plus précisément l'arsenal de Vénissieux. Rachel, Fanny et les autres ne le savent pas, mais dans le centre de la capitale des Gaules, une poignée d'hommes et de femmes se mobilisent déjà pour leur venir en aide. Ce 26 août, en effet, cela fait plusieurs jours qu'un plan de sauvetage des réfugiés est discuté au sein d'une petite association religieuse, l'Amitié Chrétienne. Derrière une façade œcuménique, tout à fait officielle d'ailleurs, l'Amitié Chrétienne réunit une vingtaine d'opposants farouches à Vichy. Des hommes et des femmes, jeunes ou vieux, des catholiques, des juifs, des protestants et des laïcs, tous révoltés par le gouvernement de Pétain. Parmi les piliers de cette petite structure, l'abbé Alexandre Glasberg. À 40 ans, l'homme a déjà un parcours qui force le respect. Né dans une famille juive en Ukraine, il a fui les pogroms, puis traversé l'Europe avant de se convertir au catholicisme en France. Là, il s'est installé à Lyon, où il a fait la rencontre d'un séminariste, Pierre Chaillet. Ainsi, depuis le début de l'occupation, les deux hommes ont commencé un travail souterrain pour aider les Juifs de France. Glasberg et Chaillet se sont construits un réseau solide dans toute la région. À ce titre, ils disposent d'un atout redoutable. Un fonctionnaire infiltré, oui, un certain Gilbert Lesage. L'homme occupe un poste à responsabilité dans l'administration vichyste. Il est le chef du service social des étrangers de Lyon. C'est grâce à lui qu'ils ont eu la nouvelle de l'imminence de la rafle, quelques jours avant ce 26 août fatidique. Les deux collègues ont donc eu le temps de s'organiser. D'abord, ils participent à la rédaction d'un tract clandestin adressé au préfet Angély. Signé collectivement par tous les mouvements de résistance lyonnais, ce document est diffusé sous le manteau entre Rhône et Saône ce matin du 26 août.
Monsieur le préfet, veuillez voir dans cette lettre l'expression de la pensée d'un nombre considérable de Lyonnais qui n'entendent point laisser faire impunément ce qu'on prépare. Nous savons que sur l'injonction des Allemands, Vichy vous a donné ordre de procéder le mercredi 26 à partir de 4 heures du matin à une rafle monstre de malheureux réfugiés juifs étrangers. Tout Lyon est déjà prévenu du déshonneur à la pensée que vous vous jugez contraint d'appliquer d'ignobles consignes dictées par l'occupant. Monsieur le préfet, nous vous plaçons devant vos responsabilités de Français et d'hommes. On vous en demandera compte. Et croyez bien qu'il ne s'agit pas là de menaces, mais d'une simple prévision d'avenir. Vous n'avez point juré fidélité à l'Allemagne. Mercredi, Lyon saura si monsieur le préfet Angély est Français ou serviteur des Boches. Signé, les mouvements de résistance.
Ce texte ferme et remarquablement combatif s'accompagne d'un plan audacieux proposé par Gilbert Lesage, empêcher la déportation de façon légale. Oui, en tant que chef du service social des étrangers, il est chargé de superviser le travail de la future commission de criblage des réfugiés de Vénissieux. Cette commission dispose d'un vrai pouvoir de décision, car elle peut interdire la déportation dans certains cas précis. En effet, 3 semaines plus tôt, le 5 août, un décret est entré en application, décret qui protège de la déportation 11 catégories de personnes.
Le Conseil d'État, secrétaire général à la police, vous informe qu'israélites étrangers entrés en France postérieurement au 1er janvier 1936, ainsi que ceux en résidence libre, seront transportés en zone occupée avant 15 septembre, à l'exception
1.
Vieillard plus de 60 ans.
2.
Enfants moins de 18 ans non accompagnés.
3.
Individus ayant servi dans l'armée française.
4.
Ceux ayant conjoint ou enfant français.
5.
Ceux ayant conjoint n'appartenant pas à une des nationalités évoquées.
6.
Ceux intransportables.
7.
Femmes en état de grossesse.
8.
Père ou mère ayant enfant moins de 5 ans.
9.
Ceux dont les noms figurent sur liste annexée à la circulaire du 20 janvier 1941 et sur listes annexes.
10.
Ceux qui semblent ne pouvoir quitter leur emploi sans préjudice grave pour économie nationale.
11.
Ceux qui se sont signalés par leurs travaux artistiques, littéraires ou scientifiques. Les individus bénéficiant d'exemption pourront, s'ils le désirent, suivre membres de leur famille non exemptés. Stop. Ces instructions ont caractère rigoureusement confidentiel. Stop.
L'idée de Lesage est donc la suivante. Trafiquer le plus de dossiers possible pour les faire entrer dans les cases. Ainsi, il propose de nommer à des postes clés de la commission deux membres éminents de l'amitié chrétienne, l'abbé Glasberg et le père Chaillet. Voilà donc les deux religieux catapultés représentants des œuvres sociales au sein du camp de Vénissieux. Là, ils pourront faire des demandes de libération après avoir accès au dossier et exercer une influence sur les décisions. À 7h du matin, ce 26 août 1942, munis de leur laissez-passer, Glasberg et Chaillet pénètrent pour la première fois dans l'enceinte gardée de l'arsenal de Vénissieux. Ils découvrent alors un immense espace fermé par des murs d'enceinte et des fils barbelés où s'alignent des bâtiments de briques sombres. Le temps leur est compté. La déportation des réfugiés pour Drancy, puis pour Auschwitz, doit avoir lieu 3 jours plus tard, le vendredi 29. « Dès son arrivée, l'abbé Glasberg fait la rencontre du représentant du préfet Angély, l'intendant de police Lucien Marchais. Il sait qu'il doit faire bonne impression. Lucien Marchais va en effet siéger à ses côtés au sein de la fameuse commission de criblage. À 8 heures, les deux hommes font une visite du camp. Glasberg peut ainsi faire un premier état des lieux. Dans la grande cour centrale, il observe un premier autocar qui pénètre entre les hauts murs. Le toit chargé de bagages, le véhicule stoppe quelques mètres devant eux. Et un à un, les passagers sortent, silencieux, apeurés. Glasberg scrute leurs visages. Des femmes seules avec leurs enfants, mais également des vieillards, des adolescents. Les hommes en âge de travailler, comme le père de Rachel, eux doivent arriver plus tard depuis les différents groupements de travailleurs étrangers. Pour l'abbé, de nombreuses questions restent en suspens. Combien sont-ils en tout et surtout, comment organiser la suite? Car l'immense espace peut facilement accueillir des centaines de personnes, voire des milliers. Le préfet Angély a vu les choses en grand. Cependant, il y a quelques raisons d'espérer. Tout d'abord, l'abbé Glasberg n'est pas seul. Grâce à son poste à la commission, il a pu faire entrer de nombreux alliés dans le camp. Lily Tagger, notamment. Fille de réfugiés, cette jeune assistante sociale juive de 19 ans fait partie d'une organisation d'entraide israélite, l'œuvre de secours aux enfants, ou l'OSE. Son antenne lyonnaise, dirigée par Charles Lederman, a déjà secouru de nombreux enfants réfugiés depuis le début de l'occupation, comme le rappelle l'historienne Sabine Zetoun sur France 5.
Il était demandé à des familles qui habitaient dans les campagnes de pouvoir héberger un enfant moyennant finances pour que les enfants puissent un petit peu souffler, pour que les enfants puissent manger un petit peu à leur faim pendant une semaine, deux semaines. En faisant cela, l'OSE avait déjà constitué un réseau de familles qui savaient que les enfants étaient juifs et ensuite l'OSE allait se servir de ce réseau pour planquer à partir de 1942 ses enfants.
L'abbé Glasberg peut donc compter sur plusieurs bénévoles venus de l'OSE. Lily Tagger, on l'a dit, mais aussi Denise Grunwald, Madeleine Barrault, Hélène Lévy ou encore Elisabeth Hirsch. Elles ont toutes moins de 25 ans et se retrouvent en première ligne face à l'horreur. Dès son arrivée dans le camp, Lily Tagger est chargée par Glasberg de parcourir les baraques pour réunir autant de renseignements que possible. La jeune femme découvre alors une atmosphère poisseuse, suffocante. Les réfugiés, épuisés par le voyage, accablés par la chaleur, se reposent sur des paillasses à même le sol. L'urgence est partout. Alors, Lily distribue des rations d'eau et apporte un peu de réconfort. Mais au milieu de la désolation, quelques notes de musique résonnent. Dans un coin, Rachel Berkovitch, une fillette assise sur une petite valise, joue un air de violon face à un groupe d'enfants. Elle vient tout juste d'arriver à Dalba la Romaine, en compagnie de sa belle-mère, Fanny, et d'une cinquantaine d'autres prisonniers. Ainsi, tout au long de l'après-midi, le camp continue de se remplir. Dans la cour principale, les moteurs des autocars font bise et les réfugiés sont emmenés dans les baraques. Alors, à la fin de cette première journée, un constat s'impose. De nombreux enfants, comme la petite Rachel, ont été capturés avec au moins un parent. Comme le décret du 5 août protège de la déportation des mineurs non accompagnés, une idée fait son chemin dans l'esprit de l'abbé Glasberg. Demander aux parents d'abandonner légalement leurs propres enfants au profit de l'amitié chrétienne. Être séparé de son enfant pour lui sauver la vie, une hypothèse audacieuse, impensable pour n'importe quel parent, et pourtant...
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, ou mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou d'où j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais mon enfant.
Affaires sensibles. Fabrice Drouet.
27 août 1942, camp de Vénissieux. Le soleil se lève sur ce camp. À 9h, la petite Rachel Berkovitch observe un convoi de camions bâchés franchir l'entrée principale. À l'intérieur des véhicules se trouvent les hommes qu'on ramène depuis les groupements de travailleurs étrangers. Menottes au poignet, les prisonniers sont débarqués en rang serré dans une partie clôturée de la cour. Malgré leur présence, les familles ne sont pas réunies. Les nouveaux arrivants logeront dans une baraque séparée à l'écart des femmes et des enfants. Dans la cohue, Rachel aperçoit son père, Zelman. Il semble à bout de force. Quand il la remarque, ils échangent un long regard. Puis il disparaît avec les autres, poussé dans la baraque par les policiers. Quelques heures plus tard, Rachel et Zelman se retrouvent enfin. L'homme a pu négocier un court moment avec sa fille dans le local de la Croix-Rouge. Il lui remet discrètement l'adresse d'amis de la famille. Si elle s'en sort, elle devra les contacter. Puis il la prend dans ses bras. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Au même moment, une rumeur commence à circuler dans le camp. Les enfants auraient une chance de ne pas être déportés. Pour cela, les parents devraient céder leur droit de paternité au profit de l'amitié chrétienne. La stratégie vient d'être décidée par l'abbé Glasberg. Pour lui, c'est la seule solution. Vu que l'association dépend de la hiérarchie catholique, Glasberg sait que personne, pas même Lucien Marché, l'intendant de police, n'osera dénoncer une telle manœuvre. D'autant que le cardinal de Lyon, Monseigneur Gerlier, est un ami personnel de Pétain. Une fois que les parents ont signé l'acte de délégation de leurs droits, la commission de criblage sera dans l'obligation de maintenir les enfants sur le territoire. Bien. Maintenant, le plus dur reste à faire. Parce qu'il faut expliquer tout ça aux parents. Dans le secteur des mères et des femmes, les assistantes sociales commencent ce travail délicat, comme le rappelle Lily Tagger, interrogée par Valérie Porteret en 2018.
Ça a été dramatique, parce qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas. C'était difficile de leur dire « on sait que vous allez vers la mort ». Mais au moins évitez ça pour vos enfants. Il y avait des cris, des déchirements. Je ne sais pas s'ils savaient qu'ils ne reverraient plus leurs parents, mais je pense que les parents savaient qu'ils ne reverraient plus leurs enfants. Et il y avait et une misère physique et une misère morale. Avec mes 91 ans maintenant, c'est quelque chose que je n'ai pas oublié.
Bien sûr, comme on peut l'imaginer, de nombreuses mères de famille restent incrédules face à une telle proposition. Alors, avec beaucoup de tact et de diplomatie. Les bénévoles essayent de leur faire comprendre que c'est la seule façon de sauver leurs enfants d'une mort certaine en déportation. Oui, ici, ils seront pris en charge par tout le réseau de l'Amitié chrétienne. D'ailleurs, la question du lieu d'accueil des enfants vient d'être réglée par Charles Lederman, le directeur de l'OSE de Lyon. L'homme a trouvé un endroit idéal, un ancien couvent du quartier de la Croix-Rousse qui sert de local aux scouts israélites. Ensuite, ils seront remis à leurs proches ou bien à des familles d'accueil de la région. Certaines mères hésitent et demandent des conseils. C'est le cas de Shaya Souradiament, qui est ici avec sa petite fille Diana. Elle écrit à un certain Alignol, une connaissance qui l'a aidé dans les mois précédant sa capture.
Cher monsieur Alignol, je suis très triste et bien désespérée. Demain, une commission de criblage spéciale doit examiner chaque cas. Mais d'après ce que l'on dit, j'ai toutes les chances d'être refoulée, quoique la chose ne soit pas encore décidée. On me conseille de laisser Diana ici, dans un internat sous la protection de l'Amitié chrétienne. Que faire ? Connaissant votre amour paternel ainsi que votre intelligence, je vous supplie, conseillez-moi. Il me semble que je sois déjà folle, et c'est pour cela qu'il m'est impossible de vous écrire davantage. Je vous remercie pour tout. Je vous envoie, ainsi qu'à Madame Alignol, Madame Combes et Monsieur Font, mes salutations les plus distinguées. Votre Madame Diamante. Ayez la bonté de demander s'il y a du courrier pour moi. Dans l'affirmative, ayez la bonté de le faire suivre. Encore une fois, merci.
Comme le montre ce courrier, Glasberg et les siens se démènent également pour sauver des parents. D'ailleurs, grâce aux informations récoltées par Lily Tagger et les autres, l'abbé prépare les dossiers de libération des adultes en vue de la commission. Pour chacun d'entre eux, il s'efforce de récupérer tous les justificatifs nécessaires. Dans certains cas, il demande même de faux papiers à Gilbert le Sage. Mais ce n'est pas tout. Glasberg s'est trouvé un nouvel allié, un certain Jean Adam. Ce jeune homme de 24 ans est le seul et unique médecin du camp. Révolté par le traitement infligé aux prisonniers, il déclare à tour de bras de fausses maladies. C'est un atout de poids pour Glasberg, car certaines pathologies entrent directement dans les conditions dictées par le décret du 5 août. Une fois ces dossiers complétés, Glasberg peut enfin les soumettre à la commission de criblage. Dans un petit bureau, les négociations commencent. Lui et le père Chaillet d'un côté de la table, l'intendant de police Lucien Marché, son collègue Claude Cornier de l'autre. Consciencieux, tatillon, vichistois, les deux fonctionnaires vérifient scrupuleusement chaque dossier. Et si la conformité avec les critères d'exemption n'est pas parfaite, la demande est rejetée. Glasberg et Chaillet doivent garder leur sang-froid. Il est nécessaire que les relations restent cordiales pour ne pas tendre la situation. Travail d'équilibriste. Ainsi, malgré de nombreux refus, plusieurs dizaines de demandes d'exemption sont acceptées. Le travail s'annonce colossal, parce que les autocars continuent d'affluer dans le camp et les réfugiés sont toujours plus nombreux. Le 28 août 1942, le lendemain, il est 11h du matin. Désormais, 1016 internés, dont 108 enfants, s'entassent dans les baraques. La chaleur assommante, montée d'un cran, ralentit tous leurs gestes. Dans la journée, la commission de criblage reprend. Glasberg et Chaillet poursuivent le travail entamé la veille face aux deux fonctionnaires impassibles. De leur côté, les assistantes sociales arpentent les baraques pour convaincre les parents. Il faut faire vite, très vite. La déportation pour Drancy doit avoir lieu le lendemain. Vers 20h, Gilbert Lesage rapporte une nouvelle importante. Le départ des adultes a été avancé à 3h du matin. Glasberg veut saisir cette opportunité. Il sait que de nombreux gardes seront mobilisés et que la situation sera favorable pour une exfiltration. En effet, même quand ils seront officiellement séparés de leurs parents, les enfants n'auront pas pour autant l'autorisation de quitter le camp. Il faudra donc les faire sortir secrètement. Mais d'abord, il faut faire signer les parents. L'acte de délégation a été imprimé en une bonne centaine d'exemplaires. L'abbé Glasberg saisit un petit tas qu'il met dans sa sacoche avant de se diriger dans la baraque des hommes. Parmi les internés qu'il rencontre se trouve Zelman Berkovitch, le père de Rachel. Après une rapide discussion, le prisonnier écrit le nom de sa fille, puis le sien, avant de signer en bas de la page. Voilà, c'est fait.
Je sous-signais Zelman Berkowicz, né à Béguilocin de nationalité polonaise, et de ma libre volonté déclare abandonné en pleine connaissance de cause, conformément à l'article 17 de la loi du 24 juillet 1889, les droits de garde et de puissance paternelle que j'exerce sur la personne de Rachel Berkowicz, qui a été pris à la charge de l'amitié chrétienne. Fait à Vénissieux, le 29 août 1942.
De leur côté, Lili Tager et ses collègues passent dans les baraques des femmes. Après chaque signature vient le moment le plus difficile, les adieux. Chaque situation individuelle est différente. Certaines femmes serrent jusqu'au bout leur enfant comme si tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. D'autres poussent des cris hystériques, alors que certaines semblent figées dans la stupeur, plongées dans un état catatonique. C'est le cas par exemple de la grand-mère de la petite Davia. Près de 70 ans plus tard, la jeune réfugiée, devenue grand-mère à son tour, raconte ce moment de la séparation.
Je n'ai pas le souvenir d'une séparation violente. On avait dû la prévenir que vous allez m'emmener. Et je la vois sur sa paillasse, en haut, sans réflexe, sans rien. Cette femme qui était d'un dynamisme fou, qui... Donc allongée, je n'ai pas le souvenir d'un déchirement, d'un... Je ne sais pas.
Plutôt les bras qui l'entombaient, en fait.
Oui, elle est allongée, et moi, ben, je suis fondue dans un groupe, j'ai mon petit carton au cou, et puis voilà.
À 23h, les premiers enfants sont conduits dans le réfectoire. Petit à petit, l'espace se remplit et l'agitation qui va avec. Au milieu des pleurs et des cris, Rachel Berkowicz est recroquevillée à côté de sa petite valise, les genoux relevés sous le menton, la main serrée sur son étui à violon. Elle vient de dire adieu à sa belle-mère, Fanny. Dehors, des nuages sombres ont recouvert le camp. Vers minuit, les éclairs transpercent le ciel et des tonnes d'eau s'abattent sur les baraques. À 3h du matin, les 108 mineurs du camp sont enfin réunis dans la pièce. Quelques instants plus tard, une dizaine d'autocars pénètrent dans l'enceinte du camp. Depuis les fenêtres du réfectoire, les enfants voient leurs parents monter dans les véhicules. Les moteurs grondent, puis s'évanouissent à l'horizon. Alors, un étrange silence s'installe. Comme prévu par Glasberg, presque tous les gardes ont été mobilisés pour la déportation. C'est donc le moment idéal pour l'exfiltration. Un peu plus de 2 heures après le départ des adultes, à 5h30 du matin, une file d'enfants sort du réfectoire. Tous marchent droit vers la sortie annexe du camp. Une porte a été laissée ouverte par Gilbert le Sage. Derrière, 2 bus les attendent. Alors calmement, les petits prennent place dans les véhicules. Aucun garde présent n'a repéré la manœuvre. La réussite est totale. L'abbé Glasberg, Lili Tager, le père Chaillet, tous les autres peuvent souffler. Les 108 enfants sont sauvés. Quand il apprend la nouvelle, le préfet Angélie est furieux. Il exige que les enfants soient retrouvés, puis ramenés sur le champ. Et encore une fois, l'abbé Glasberg avait vu juste. Le cardinal Gerlier s'insurge contre le zèle mortifère du préfet. D'après lui, les enfants ont été officiellement recueillis par l'Église et ils ont vocation à rester en France. Point. Et surtout... Il est déjà trop tard. Les réseaux de l'amitié chrétienne de Lozé ont été activés et tous les enfants ont été cachés. Aucun ne sera rattrapé. De leur côté, les principaux acteurs du sauvetage continueront tous leur engagement jusqu'à la fin de la guerre. Tous seront recherchés, certains arrêtés, mais aucun ne sera déporté ou exécuté. Après son exfiltration, la petite Rachel Berkowicz retournera en Ardèche, où elle sera recueillie et protégée par la famille Merlan. Ensuite, elle retrouvera sa mère biologique, Chaya, avant de partir avec elle pour Israël en 1949. Comme elle l'avait promis à son père, elle consacrera sa vie à la musique et au violon. Elle participera même à la construction du nouvel opéra de Tel Aviv en 2007, avant de mourir le 13 octobre 2016. Le convoi qui emmenait son père sous la pluie battante de cette nuit d'août, en revanche, ne reviendra jamais. En tout, 545 adultes présents à Vénissieux seront déportés puis exterminés par les nazis. Cette ultime tragédie du XXe siècle, qu'on appelle en hébreu « Shoah » pour « catastrophe », désigne, on le sait, la mise à mort de 6 millions de juifs d'Europe, parmi eux Zelman Berkovitch. Comme les autres, nous ne l'oublions pas.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis.
Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Vous écoutez Affaires Sensibles, presque comme la voix de Leonard Cohen. Le sauvetage des enfants de Vénissieux, aujourd'hui nous en parlons dès maintenant avec Valérie Porteret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et c'est vous qui avez découvert cette histoire au cours de vos études avant de la raconter dans un livre intitulé « Vous n'aurez pas nos enfants » paru aux éditions Ixo l'an dernier. La première question qu'on se pose à la fin de ce récit, et finalement, c'est évidemment comment s'est passée l'exfiltration des enfants une fois passées les enceintes du camp où ont-ils tous trouvé les familles d'accueil ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est le moment évidemment crucial, c'est quand ils ont franchi les portes du camp. Il leur faut se rendre assez vite au centre de Lyon, dans l'ancien couvent de la Montée des Carmélites, dans le 4e arrondissement de Lyon, où les attend une garde des éclaireurs israélites de France. Donc ils montent la garde, ils accueillent les enfants à la sortie du car, ils les conduisent dans un grand local, où ensuite les membres de l'Amitié chrétienne et de l'OSÉ doivent procéder donc à la remise des enfants aux familles d'accueil ou entre autrement donner ces enfants aux éclaireurs qui, sur leur vélo, vont les accompagner dans les familles d'accueil. Alors, il faut bien s'imaginer que tout un travail a déjà été entrepris bien avant
en amont,
l'opération de sauvetage. D'ailleurs, si ce n'est pour l'organisation du lieu où on va accueillir ces enfants, imaginez 108 enfants, on a des éclaireurs israélites qui, après les vacances du mois d'août, à la mi-août, ont déjà été contactés et réunis qu'à Tilsit pour organiser justement l'accueil des 100 enfants et faire en sorte qu'on conduise par exemple de la paille pour qu'ils puissent s'allonger, qu'il y ait du ravitaillement et surtout que l'on aille partout dans la banlieue lyonnaise, auprès des contacts des sauveteurs, contacter des familles et les mettre au courant qu'une opération va être conduite et qu'on aura besoin évidemment de familles d'accueil.
Et c'est donc exactement ce que sont devenus leurs parents, combien sont partis dans les camps, combien sont revenus ou pas revenus.
Oui, de toute façon, en fait, pour les parents, la plupart des parents sont morts en déportation. Il faut savoir qu'ils sont partis du camp de Vénissieux lors de la même nuit que les enfants ont été exfiltrés. Ils ont été conduits à la gare de Saint-Priest. Ils sont arrivés au camp de Rancy et ensuite ils sont repartis à Auschwitz par les convois 27 et 30 du 2 et 9 septembre 42. Et on peut dire que pratiquement 15 jours après le sauvetage, la plupart des parents étaient malheureusement partis en fumée à Auschwitz. Quelques enfants, dont Myriam et Alex Zalkman, vont retrouver leur papa en 45 en Belgique. Ils seront très peu. Pareil au niveau des adultes, des 545. On a par exemple un témoignage de Monsieur Altman, qui avait été arrêté à Saint-Étienne, qui a eu la chance de revenir, et ça sera très peu. Et puis, évidemment, on a quelques adultes qui, eux, avaient eu le fameux ticket à la liberté obtenu par la commission de criblage au camp de Vénissieux, et un certain nombre de femmes qui avaient été exfiltrées, notamment au Vinatier, où des résistants, des médecins, dans les hôpitaux, ont joué le jeu et les ont protégées.
Alors, un élément m'a surpris dans le récit du côté des gens qui ont sauvé ces enfants. Certains ont été arrêtés, on fait de la prison, mais aucun n'a été exécuté. Pourtant, le crime aux yeux du régime assassin de Pétain était important.
Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a eu une tragédie, d'ailleurs, en réalité. Donc, dans le texte, vous parlez du télégramme du 5 août 1942, qui comportait un grand nombre d'exemptions. Et c'est d'ailleurs avec ce télégramme avec l'idée de ce télégramme que Gilbert Lesage est allé au contact de l'Amitié chrétienne pour leur proposer de l'aider pour sauver le plus possible des internés. Mais entre-temps, il y avait eu la connaissance d'un télégramme du 18 août.
Ah, nous avons perdu notre invité que nous allons retrouver. Donc Valérie Porteret nous parle depuis les studios de Radio France à Lyon. Alors je vais me renseigner du côté de ce qu'on appelle la technique pour savoir si nous avons retrouvé Valérie Porteret. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter Maple Glider, le disque que nous aurions passé de toute façon pendant cette interview, Swimming, et on retrouve notre invité juste après. Watching the surface on the burning gas. A few times I nearly packed up my bags. You said, baby, please don't leave. There is so much we've left to see. Said, baby, smooth.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le sauvetage des enfants juifs de Vénissieux avec notre invitée Valérie Porteret que nous avons retrouvée. Valérie Porteret, je vous repose la question parce qu'on était coupé juste après. Parmi les gens qui ont sauvé ces enfants, certains ont été arrêtés. Ils n'ont été ni déportés ni exécutés. Pourtant, aux yeux du régime assassin de Vichy, la faute était grave.
Il faut savoir que c'est la dernière opération de sauvetage légale qui a été réalisée dans la clandestinité. Par rapport au récit qui a été fait, il faut bien savoir que lorsque Gilbert Lesage contacte les Amitiés chrétiennes aux alentours du 8 août, évidemment, il leur prouve que on va pouvoir sans doute sauver le plus possible des internés en appliquant la circulaire du 5 août. Alors, en appliquant la circulaire du 5 août, ça veut dire déjà de façon légale, parce que de toute façon, on peut très bien imaginer qu'un certain nombre de policiers, lors des arrestations, vont commettre des fautes. La preuve en est, c'est que l'une des mamans de quatre petites filles, Madame Fixler, n'aurait jamais dû être arrêtée, puisqu'elle était d'origine hongroise, et qu'on l'a arrêtée parce qu'on pensait qu'elle était d'origine tchécoslovaque. Donc déjà, à l'intérieur du camp de Vénissieux, quand Gilbert Lesage fait appel aux Amitiés chrétiennes, c'est déjà pour vérifier si le travail de la police a été bien fait, et selon des directives. Et en plus des directives qui ont changé, car le télégramme du 5 août, officiellement, que vous citez, il a été en fait coupé, on pourrait dire, drastiquement par un autre télégramme, le 18 août, qui lui ne conserve plus qu'un certain nombre d'exemptions. On peut seulement exempter dans les nationalités que vous avez citées, les personnes de plus de 60 ans, les intransportables, les femmes enceintes, les parents d'enfants de moins de 2 ans et ceux qui ont un conjoint ou un enfant français.
Donc il fallait agir, quoi, vraiment. Oui.
Il fallait agir. Donc en fait, légalement, donc, ils ont toute l'opportunité de pouvoir aider Gilbert Lesage. Ça, c'est le rôle officiel. Et évidemment, indirectement, mais ça, les officiels ne le savent pas encore, même quand l'opération de sauvetage est accomplie, ils ont évidemment falsifié, par exemple, des dates de naissance, d'ailleurs, d'un certain nombre d'enfants qui étaient plus âgés. Par exemple, l'autre Lévy qu'on a retrouvée sur les photos, par exemple, elle, on va la faire passer pour une assistante sociale. Une autre, Anna Sraj, parce qu'elle était petite de taille, on a trouvé qu'on pouvait facilement la faire rajeunir de 2 ans. Donc, si vous voulez, quand l'opération de sauvetage est accomplie et que Alexandre Angeli s'en rend compte, comme vous l'avez dit si justement, c'est trop tard. En fait, au moment où la police, d'ailleurs, arrive montée des Carmélites le 31 août, il n'y a plus aucun enfant qui se trouve montée des Carmélites. Et c'est à ce moment-là, en fait, si vous voulez, eux, ils pensaient que Gilbert Lesage, donc, gardait ses enfants dans un lieu. Et puis, finalement, quand ils arrivent dans ce lieu, il n'y a plus personne. Donc, ils vont se retourner vers qui ? Vers Pierre Chaillet. Ils vont l'assigner à résidence. Il y aura une enquête également qui va être menée contre Gilbert Lesage. D'abord, tout simplement, pas que par rapport au sauvetage qui a été mené au camp, parce que aussi, il y a eu 1016 juifs étrangers qui arrivent au camp de Vénissieux, il faut savoir qu'au départ, Angeli devait en arrêter entre 2000 et 2600, ce qui signifie qu'il y a eu des fuitages.
Oui.
Vous voyez, c'est vraiment un récit alçant d'une opération sensationnelle qui a demandé, après coup, des enquêtes, mais en vérité, comme c'est une affaire qui a été menée par les meilleurs au sauvetage, avec des questions de stratégie, en fait, toutes les personnes, ensuite, elles vont juste passer dans la légalité. Mais même Pierre Chaillet, qui va être assigné à résidence, qui était déjà une décision très particulière venant de Vichy, vraiment une première... Il a continué même son travail.
Alors, le sauvetage de Vénissieux a-t-il marqué un coup d'arrêt dans la politique de déportation de Vichy ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment... C'est Serge Klarsfeld qui, déjà en 83, dans son livre Vichy Auschwitz, avait pointé du doigt cette affaire comme un véritable tournant. Tout simplement, si vous, après, une fois que le cardinal Giallier refuse au préfet Angeli de rendre ses enfants, et même qu'il lui conseille de faire savoir que Vichy a très mal agi, Pierre Laval, qui avait lui-même, trois semaines plus tôt pratiquement, lui-même demandé la déportation des enfants au SS qu'il ne lui avait pas demandé, va se retourner vers les chefs SS en lui demandant qu'on ne lui soumette plus de convoi de déportation.
Est-ce que cette résistance qu'on pourrait appeler résistance administrative, donc en exploitant toutes les failles des mesures légales, a été quelque chose, au-delà de l'affaire de Vinicieux, quelque chose de répandu?
Je pense, en tout cas, qu'à travers l'affaire, si vous voulez, l'affaire de Vinicieux, c'est vraiment une affaire qui nous permet de comprendre le sauvetage, qui nous permet de comprendre comment ça a pu marcher. Et si vous reprenez l'exemple de Lesage, ben Lesage est infiltré à Vichy. Si vous reprenez l'exemple du docteur Adam, qui lui va organiser la lutte médicale à l'intérieur du camp, notamment ben, soit en soignant des gens, soit en falsifiant pareil des papiers ou en leur distribuant des doses de poison, il a été couvert à Vichy par d'autres médecins. Si vous suivez l'exfiltration des personnes, comme je vous l'ai dit, dans les hôpitaux lyonnais, vous avez encore des résistants qui eux-mêmes ont des appuis à Vichy. Mmh. Donc en fait, on s'aperçoit que le sauvetage, c'est à la fois, avec Vénitieux qui permet de le comprendre, on a à la fois cette alliance entre les différentes organisations qui font fi de leurs différences spirituelles, politiques, et qui en même temps, donc, et même politique, qui ont des appuis à Vichy, et puis qui ensuite vont fédérer autour de leurs actions tous les Français, c'est-à-dire un grand nombre de personnes. Ils vont élargir le cercle, puisqu'il faut bien savoir qu'après Vénitieux, on a encore deux années de guerre où les enfants auraient pu être repris, et surtout, la situation va s'aggraver également pour les Juifs français, dont certains avaient pris en charge ces enfants dès le début, comme les époux Rosenstiel pour la petite Diana, et qui après vont devoir confier ses enfants à des familles non juives pour vraiment les protéger jusqu'au bout.
Merci.
Et oui, vraiment, oui. On peut non, dire
un mot, aussi, un mot, juste un mot, s'il vous
aussi
plaît.
Que c'est vraiment une résistance de l'esprit.
Oui.
Au départ.
Très bien. Pardon de vous couper. Alors, je ne vous coupe pas, mais nous arrivons à la fin de notre entretien. Merci infiniment, Valérie Porteret. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le sauvetage des enfants de Vénitieux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Isabelle Maillot, Adrien Morat, Adrien Cara, Jean Bulot et Guillaume Ballandras. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélia Labruyère et Cécile Ribot-Cayol. Coordination, Christophe Barret. Réalisation Marion Lollet, Flora Bernard et Stéphane Combe.
Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission actuellement au Tristan Bernard à Paris.